Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, nous démarrons une série d'émissions sur l'extractivisme, avec pour commencer True Story, pour paraphraser le titre du beau film de Richard Desjardins, mais en compagnie d'Anna Bednick. Anna Bednick, le livre que vous publiez aux éditions du Passager Clandestin s'intitule « Extractivisme ». C'est un terme curieux, extractivisme. À la fois pas très connu, pas très usité, et qui en même temps, en quelques années, s'est mis à renvoyer à énormément de choses qu'on pourrait croire très différentes. L'extractivisme, on pense aux projets de mines qui déferlent un peu partout dans les pays occidentaux, alors qu'on pensait que c'était du passé. L'extractivisme, c'est aussi les gaz de schiste qui ont suscité des résistances extrêmement importantes dans nos pays. Mais l'extractivisme, c'est aussi le pétrole qu'on va puiser jusqu'à la dernière goutte. Ce sont aussi les métaux qui, aujourd'hui, semblent intéresser de plus en plus les industriels. Et puis, c'est aussi la forêt. Et puis, c'est aussi les grands barrages, l'eau. Ça renvoie à toutes sortes de choses. Vous, qu'est-ce qui fait que vous vous y êtes intéressé? Le sous-titre de votre livre renvoie un petit peu à tout ce que je viens de décrire, mais de manière plus générale, exploitation industrielle de la nature, avec les logiques, les conséquences, les résistances que ça implique. Et c'est de tout ça que vous parlez dans votre livre, mais peut-être j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé à vous intéresser à ce sujet-là.
Je me suis intéressée à ce sujet à partir des résistances. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer l'extractivisme, et avant de même formuler ce mot, j'ai d'abord rencontré des mouvements locaux. Au départ, c'était en Amérique latine, en Équateur. Donc, des mouvements de personnes qui s'opposent à un projet qui menace leur territoire, qui menace leur lieu de vie, leur mode de vie, leur source de subsistance, les projets qu'ils ont pour ce lieu de vie, les projets d'avenir. Et donc, qui vont s'organiser collectivement pour résister à ce projet, en s'opposant souvent à des adversaires beaucoup plus puissants que des entreprises transnationales ou nationales d'ailleurs, de la puissance publique, le discours dominant, etc. Donc je me suis intéressée à ces luttes. Ça a commencé par un cas concret. J'étais partie en 2007 en Équateur, où j'ai, au fait, pour tout vous dire, j'ai lu un petit encadré dans le guide de voyage, qui donc parlait d'une communauté paysanne qui a réussi à faire chasser de ses terres une entreprise minière canadienne. Et donc, il donnait quelques détails, notamment le fait que cette communauté paysanne avait retenu en otage des paramilitaires à la solde de la compagnie. Donc, ça m'a paru être une sacrée histoire. Et donc, je me suis dit, il faut que j'en profite. Je profite de mon voyage pour aller faire un tour là-bas et pour rencontrer ces gens-là. Donc voilà, je me suis retrouvée comme ça en 2007 dans la région d'Intag, en Équateur, dans la communauté de Junin. J'ai rencontré les différents acteurs de cette lutte qui m'ont expliqué pourquoi ils s'opposaient à ce projet minier, comment ils s'y opposaient, à quel point c'était difficile, à quel point la répression, la criminalisation étaient fortes. Ils avaient de nombreux procès. Il n'y a pas eu de mort, mais moi je dis il n'y a pas eu de mort parce que dans beaucoup de luttes du même type, notamment dans les pays du Sud, en Amérique latine, en Afrique, finalement aussi en Occident, un petit peu moins, mais bon. Il y a au contraire des morts.
Cette lutte, elle était encore en cours lorsque vous êtes arrivée?
Quand je suis arrivée en Équateur, la communauté avait, enfin les communautés, parce qu'il y en avait plusieurs, avaient réussi pour la deuxième fois à faire suspendre le projet minier, pas annuler puisque les concessions étaient toujours valides, enfin les concessions, le permis minier. Mais effectivement, aujourd'hui, elle est toujours en cours parce que le projet a repris et aujourd'hui, il est mené par une compagnie publique. Donc,
et qu'est-ce que c'est, ce projet?
C'est un projet d'une mine de cuivre dans une forêt vierge, une zone naturelle préservée jusqu'à là, une zone de recharge hydrique, donc, c'est-à-dire que c'est là que prennent source des ruisseaux qui forment des rivières, etc. Et au fait, ce qui m'a vraiment intéressée, ce qui m'a frappée dans cette expérience, dans leur expérience, c'est que tout en résistant aux entreprises minières, Les communautés se sont organisées pour mettre sur pied tout un tas de projets alternatifs, hein, ce qu'on pourrait appeler alternatifs, des projets à la fois de production destinés au marché local, au marché national, et en même temps des projets culturels, les médias alternatifs, des projets de conservation, notamment de préservation justement des forêts, des zones de bassin versant.
Ce que vous dites là, Anna Bednik, c'est qu'ils n'ont pas simplement continué à vivre comme ils l'avaient toujours fait, mais qu'ils ont été tout de même transformés d'une certaine manière par ce projet contre lequel ils se battaient.
C'est précisément ça, et c'est justement, moi je dirais que c'était la première raison pour moi de commencer à m'intéresser à ces mouvements. Ils ont complètement changé, en grande partie changé leur mode de s'organiser, puisque c'était plutôt des communautés isolées, alors qu'ils ont mis sur pied un certain nombre de projets communs. Et ils ont commencé à se poser des questions de comment ils pouvaient préserver ce milieu qui était finalement vital pour leur conception de vie qui a aussi évolué au cours de cette résistance. Et oui, on peut dire que s'opposer à ce projet destructeur a transformé les personnes qui ont pris part. Et donc, à partir de cette expérience, je commençais à me renseigner sur d'autres mouvements du même type en Amérique latine. Et donc, on est parti avec mon compagnon pendant plus d'un an dans presque tous les pays de la région à la rencontre de communautés en lutte.
Parce que de fait, des projets, il y en avait énormément. Vous pourriez peut-être en citer quelques-uns.
Les projets d'extraction de ressources en Amérique latine au cours de ces 15 dernières années sont multipliés de façon très importante. Les plus connus, aujourd'hui, on peut par exemple penser au projet Conga, mené par une entreprise canadienne, péruvienne, une joint venture, qui s'appelle Yanacocha. Et donc, c'est un projet dont on a beaucoup parlé parce qu'il y a une résistance très importante des communautés locales qui, pendant plusieurs mois, se sont relayées à plus de 4000 mètres d'altitude pour monter la garde au bord des lacs que justement l'entreprise minière prévoyait de faire disparaître pour creuser sa nouvelle mine. Alors c'est un projet d'extraction d'or et de cuivre pour lequel il est prévu que durant les 17 ans d'exploitation, plus de 90 000 tonnes de scories chargées de métaux lourds seront amoncelées dans une zone de recharge hydrique aux sources des rivières qui alimentent toute une région, que 4 lacs soient ensevelis. Donc pour les paysans de cette zone andine, c'est à peu près la fin de tout. Sachant qu'en plus, ils ont des exemples de pollution dont la même entreprise est responsable à quelques kilomètres de là, puisque Yanacocha exploite déjà depuis 1993 la plus grande mine d'or d'Amérique latine qui a provoqué de très nombreux dégâts. Il y a par exemple aussi le projet, enfin si on reste dans les projets miniers, il y a le projet de Pascualama en Argentine, pour lequel donc la première version de ce projet qui est situé à cheval sur la cordillère entre le Chili et l'Argentine, la première version prévoyait de déplacer des glaciers en les découpant en morceaux, donc ce qui est quand même assez incroyable. Sous la pression des opposants et des associations argentines, cette version du projet a été abandonnée. Mais le projet est toujours là et les travaux avancent. Là, ce qui se passe, c'est que même si on ne creuse pas directement sous les glaciers, il y a quand même des impacts sur les glaciers, le permafrost, les zones humides d'altitude qui alimentent en eau l'appareil, les deux côtés de la cordillère. Donc là aussi, pour les communautés paysannes indigènes qui vivent des deux côtés de la cordillère, c'est la fin de leur activité de subsistance et la fin de ces lieux tels qu'ils les connaissaient. Donc c'est la désertification, la disparition de leur cadre de vie. Ouais.
Il y a aussi des projets de barrages absolument gigantesques. Il y en a énormément, des projets de barrages en Amérique latine.
Oui, surtout en premier lieu au Brésil. Donc le projet probablement le plus connu, c'est Belo Monte, qui prévoit de déplacer 16 000 personne de leur terre qui va inonder une immense superficie. Donc là aussi, il y a des résistances. Au-delà des projets de barrage, on peut aussi penser à tout ce qui est exploitation pétrolière, évidemment, avec des cas de pollution avérés et même une condamnation historique contre l'entreprise états-unienne Chevron Texaco, par exemple, qui a complètement contaminé une large zone du nord de l'Amazonie équatorienne, en polluant, en déversant d'immenses quantités de pétrole et de résidus d'exploitation directement dans les rivières, donc, qui servaient de source d'eau potable aux populations.
Alors, on pourrait imaginé en vous écoutant, Anna Bednik, que bon, finalement, tout va bien puisque tous ces projets sont contrecarrés. Il y a des résistances partout et vous venez de le dire, les compagnies, lorsqu'elles vont trop loin, sont condamnées. Mais de fait, la situation n'est pas si simple. Texaco a été condamné mais n'a pas versé un centime, si je ne m'abuse. Et toutes ces luttes dont vous parlez aboutissent effectivement à parfois des victoires, mais les projets restent, sont toujours là. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais et que, à la première occasion, finalement, on sort les pioches et on commence à creuser, à faire exploser des sommets, à détruire des pans entiers de montagnes, des glaciers, des lacs.
C'est tout à fait vrai, c'est jamais gagné. Texaco, effectivement, n'a pas payé un centime. Et c'est loin d'être le seul cas de figure. Par exemple, il y a une autre condamnation au Chili où l'entreprise Minera Los Pelambres, qui stocké ses déchets miniers derrière un barrage, dit que c'est le plus gros réservoir de déchets miniers au monde. La communauté a eu gain de cause. L'État a exigé de l'entreprise qu'elle détruise ce barrage, sauf que l'entreprise argumente que c'est pas possible, puisque si elle détruit ce réservoir, ce mur qui est de contention, en fait, qui retient tous les déchets miniers stockés, ils vont se déverser tout simplement dans les rivières et dans la vallée. Donc, ça, c'est juste un exemple. Mais effectivement, c'est tout à fait vrai de dire qu'aucun combat n'est jamais gagné pour toujours, même s'il y a des victoires et qui sont des victoires importantes, et que de toute façon, tant qu'un potentiel d'extraction reste intéressant, il y aura toujours des acteurs économiques pour s'y intéresser. Donc c'est comme ça que, par exemple, le projet dont je parlais au départ, le projet minier Anientag en Équateur, est à sa troisième
mouture.
Voilà. Donc, et aujourd'hui, on ne sait pas si la résistance va arriver à le stopper.
Et finalement, Anna Bednik, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, des résistances se sont créées comme ça? Parce que j'étais en train de me dire, en vous écoutant, que des mines, il y en a toujours eu. On connaît des mines depuis l'Antiquité. On sait qu'il y a toujours eu, il y a eu l'appétit de l'or très très vite. Et puis le pétrole, on sait très bien que ça a déchaîné aussi les convoitises. Et puis toutes sortes d'autres métaux ont pu séduire, sans compter d'autres matières premières. On n'a pas le sentiment que dans le passé, il y a eu autant de résistance, de refus. Donc qu'est-ce qui caractérise les projets d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les populations s'y opposent? Est-ce que ces projets sont différents? J'étais en train de mettre ça en parallèle avec ce qui, pendant si longtemps, a été considéré comme une fierté. La fierté du mineur, la fierté, c'était un travail, c'était considéré comme l'élite de la classe ouvrière, par exemple. Les mineurs. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les populations s'opposent au lieu d'être heureuses d'aller fouiller les entrailles de la terre?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, première chose, c'est que, étant donné que les ressources, bon, si on parle des ressources minières, se raréfient, on va utiliser des technologies beaucoup plus intrusives et beaucoup plus polluantes pour extraire des toutes petites concentrations de métal dans le minerai. On va utiliser, par exemple, pour l'or, la lixiviation au cyanure, pour le cuivre à l'acide sulfurique. Donc, c'est des produits potentiellement toxiques. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'échelle. Ça va aussi avec l'appauvrissement des gisements, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de sans cesse agrandir la mine ou de creuser des mines très grandes. Comme par exemple, on peut penser toujours en Amérique latine à la mine de Cerro de Pasco, qui a aujourd'hui un cratère de 1800 mètres de diamètre et de 1000 mètres de profondeur. Et donc, c'est un cratère qui continue à se creuser et menace de détruire complètement la ville. Plutôt, le projet actuel est de déplacer la ville et ses 80 000 habitants un petit peu plus loin, sachant qu'une partie des habitants ont déjà été déplacés. Enfin bon, bref. Donc, en fait, ce qui se passe concrètement, c'est que ce qu'on appelle les frontières extractives, c'est-à-dire les limites géographiques de l'activité d'extraction, avancent de plus en plus loin et de plus en plus vite. Et concrètement, ça revient, alors que ça soit pour les mines, pour l'exploitation pétrolière, gazière, ou pour les autres industries extractives et assimilées, on peut aller jusqu'à parler des monocultures agricoles ou des forêts, des plantations de forêts, pardon, qui ne sont pas des forêts, etc.
Par exemple, les palmiers à huile ou les eucalyptus.
Oui, ou encore le pain transgénique planté pour fabriquer du papier, parce qu'il croît très vite. Et donc, ce qui se passe, c'est que tous ces projets s'étendent sur des nouveaux territoires et donc concrètement laissent de moins en moins d'espace pour vivre tout simplement et donc touchent des populations qui autrefois n'étaient pas touchées. Et ça va jusqu'à chez nous, jusqu'à... Bon, je ne sais pas pour dire que l'Occident n'a jamais été touché par l'exploitation, puisque ce n'est pas vrai.
Oui, là, on pense effectivement au gaz de schiste, à l'exemple canadien, qui a effectivement complètement inquiété les populations en Europe et qui a fait qu'il y a eu des résistances très très fortes ici aussi.
Oui, c'est tout à fait ça. L'exploitation des hydrocarbures non conventionnels a d'abord commencé dans les pays occidentaux, aux États-Unis, au Canada et rapidement en Europe, avant, disons, de s'étendre, et aujourd'hui elle est particulièrement forte dans les pays du Sud. C'est d'ailleurs justement avec, à ça que je me suis confrontée en retournant en France après ce voyage de plus d'un an en Amérique latine. C'est-à-dire que en débarquant sur Paris, très rapidement, lors d'une projection du film Gasland de Josh Fox, donc c'est un film états-unien qui montre les impacts de l'exploitation des gaz et pétrole de schiste aux États-Unis, on s'est aperçu que, eh bien, il y avait des projets dans la région parisienne, c'est-à-dire la région où nous habitions à l'époque, et donc en général que l'industrie pétrolière et gazière avait prévu de transformer nos campagnes en champs de forage d'hydrocarbures non conventionnels, et qu'il y en avait un peu partout en France. Donc c'était une première surprise parce qu'effectivement, on aurait pu penser que ce type de projet appartenait au passé, en tout cas pour ce qui nous concerne. La dernière grande mine avait fermé en 2004. Le pétrole, bon, il était exploité, mais en très petite quantité dans le bassin parisien. Il n'en était rien, donc on s'est aperçu que l'extraction arrivait aussi chez nous. Et donc là aussi, très rapidement, des résistances sont organisées. Et pour ce qui concerne les hydrocarbures de Rochemère, en France, donc cette résistance qui a rapidement rassemblé près de 200 collectifs citoyens, a obtenu une loi d'interdiction de la fracturation hydraulique, qui est donc aujourd'hui la seule technique potentiellement rentable pour extraire ces hydrocarbures, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de danger.
Alors, on pourrait se dire que c'est le fruit du hasard. Vous êtes en Amérique latine, vous rencontrez des gens qui vous parlent de toutes sortes de projets, tous plus démesurés les uns que les autres, et effectivement, vous rentrez en Europe et vous découvrez que c'est à peu près la même situation qui est en train de se mettre en place. Il y a tout de même des différences, Anna Bednik. C'est vrai que pendant toute la première partie de votre récit, on pensait irrésistiblement au colonialisme. On se disait, oui, ça c'est les restes de cette économie de pillage qui a perduré pendant plusieurs siècles et qui continue aujourd'hui sous une autre forme. C'est plus compliqué que ça, en fait.
Oui, c'est à la fois vrai et c'est à la fois plus compliqué que ça. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est important de le préciser, en Amérique latine, ce terme qui est l'extractivisme est précisément défini en relation à cette économie de pillage et à cette histoire coloniale qui s'est perpétuée par la domination commerciale de l'Angleterre d'abord, des États-Unis ensuite, aujourd'hui on peut dire de la Chine. C'est-à-dire que l'extractivisme est défini en Amérique latine à la suite de Eduardo Godinez, qui est donc chercheur au Centre latino-américain de l'écologie sociale, comme une exploitation massive, c'est-à-dire en grand volume, ou intense, c'est-à-dire on pourrait dire destructrice, ayant des impacts pour l'environnement, de ressources naturelles essentiellement destinées à l'exportation sous forme de matières non transformées. C'est-à-dire qu'on est là dans un modèle, d'une économie périphérique, si on reprend les termes du paradigme centre-périphérie, c'est-à-dire obligé d'exporter ses ressources naturelles et on peut dire aussi sa main-d'œuvre à bas coût pour emporter des produits manufacturés, transformés dans les économies centrales. Donc c'est effectivement dans ce cadre-là que s'inscrit la critique de l'extractivisme en Amérique latine. Et même si on pourrait dire que sur place, les personnes qui luttent contre ce type de projet, ce n'est pas leur préoccupation première. C'est-à-dire que ce qui leur importe, c'est avant tout de défendre leur lieu de vie, leur écosystème, leur culture, etc. Ce n'est pas en premier lieu la destination des ressources extraites.
C'est-à-dire qu'ils revendiquent absolument pas de garder pour eux le cuivre, l'or, l'étain, et donc au prix des destructions que vous avez évoquées, en fait.
garder pour eux, non. C'est sûr qu'il n'y a pas tellement de projets d'exploitation locale de ces ressources, en tout cas à l'échelle à laquelle on l'exploite de façon industrielle. Ensuite, évidemment, il y a des revendications, disons, d'une meilleure redistribution, des revendications de pouvoir bénéficier un petit peu plus de tous les gains que les entreprises tirent de ces projets ou les États. Quand il s'agit d'entreprises publiques.
Mais justement, Anna Bednik, il se trouve qu'au tournant du XXIe siècle, un certain nombre de gouvernements sont arrivés en Amérique latine qui étaient des gouvernements nettement plus redistributeurs. C'est pour ça que c'est important, je pense, de préciser ce qui se passe là-bas aujourd'hui. C'est que, de fait, on a pu voir les présidents boliviens, équatoriens, vénézuéliens... nationaliser, annoncer qu'ils allaient faire de la redistribution, enfin faire défier en quelque sorte les multinationales et les grandes économies que vous appelez économies centrales. Et ils ont été d'ailleurs salués un peu partout sur la planète comme des gouvernements très progressistes et qui allaient changer la donne.
C'est vrai qu'il y a eu donc au cours de... Depuis 98, depuis la première élection d'Hugo Chavez, il y a eu ce qu'on appelle le virage à gauche en Amérique latine, où plus de la moitié des pays de la région ont élu des dirigeants se revendiquant eux-mêmes ou qualifiés par d'autres de progressistes, qui sont arrivés avec des programmes de changement social, de justice sociale, de la redistribution, et aussi, évidemment, de certains discours qui revendiquaient la souveraineté vis-à-vis des puissances étrangères, des entreprises étrangères surtout. C'est vrai, et comme c'est vrai aussi, c'est important de le souligner, qu'un coup de départ, au-delà seulement, disons, de ce discours qu'on pourrait qualifier de nationaliste, il y avait aussi d'autres promesses, c'est-à-dire que notamment la Bolivie et l'Équateur se proposaient de devenir en quelque sorte des porte-parole d'un écologisme des opprimés. Par exemple, le président bolivien Evo Morales a convoqué en 2010 la Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits de la terre-mère, qui était censée être un moment de rassemblement non seulement des gouvernements et des organisations non gouvernementales, mais aussi des mouvements sociaux, mouvements écologistes autour de ces sujets. Après, il y a eu aussi... un petit peu en amont, les constitutions de l'Équateur et de la Bolivie, qui étaient à plusieurs titres exemplaires et novatrices, notamment en ce qu'elles transformaient les deux États en États plurinationaux, c'est-à-dire que les cultures indigènes et les cosmogonies indigènes, leur vision du monde, leurs principes d'organisation, ont été reconnus, disons, de façon officielle, comme égaux à la culture dominante d'extraction coloniale, la culture métisse. Et donc, parmi les principes, justement, venant de ces cultures indigènes, il y avait le buen vivir, ou le vivir bien, c'est-à-dire, bon, c'est une tentative de traduction en termes intelligibles pour la pensée occidentale de toute une série de principes d'organisation plus que de concepts, puisqu'on est dans des cultures très différentes, un concept est déjà un terme occidental. Et donc, qui consiste à poursuivre l'horizon d'une vie en plénitude, en harmonie, en complémentarité, en réciprocité et en communauté, très différent de la compétition, de l'intérêt, et même du progrès qu'on pourrait associer à la culture dominante.
Puis il y avait la reconnaissance des droits de la terre-mère, la Pachamama.
Il y avait la reconnaissance des droits de la terre-mère en Bolivie, donc ça c'était une loi. En Équateur, il s'agissait des droits de la nature avec la création d'un tribunal où on pourrait le défendre. Donc effectivement, il y avait toute une ouverture à la fois interculturelle et, on pourrait dire, écologiste, qui semblait être difficilement compatible avec la poursuite de l'extractivisme tel qu'il était pratiqué à l'époque néolibérale. Or, malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Et aussi bien l'Équateur que la Bolivie, sans parler même du Venezuela, de l'Argentine et des autres qui n'avaient pas autant de, disons, de promesses à ces niveaux-là, qui n'ont pas donné autant d'espoir en termes d'arrêt de ces politiques d'exploitation de la nature. Et bien tous ces pays ont poursuivi, voire ont renforcé, approfondi cette spécialisation primo-exportatrice, c'est-à-dire spécialisation dans l'exportation des matières premières, et ont multiplié, accéléré, renforcé les projets extractifs.
Thank you. Alors c'est ça qui est important à souligner, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, Anna Bednik, c'est que de fait il y a eu une meilleure redistribution, de fait il y a eu une politique un peu plus sociale, encore que même ça, il faudrait l'interroger, il y a des nuances que vous apportez, et malgré cela, la résistance n'a pas faibli de la part des populations. Donc on aurait vraiment tort d'imaginer que le seul problème, ça serait à qui reviennent les bénéfices des ressources qui ont été extraites de cette manière.
Oui, non seulement les résistances n'ont pas faibli, mais je dirais qu'elles sont même renforcées, ce qui est d'un côté normal parce que le nombre de projets a continué à se multiplier et les frontières continuent à avancer aussi. Elles n'ont pas faibli et on pourrait même, d'une certaine façon, on pourrait dire que la critique de l'extractivisme a émergé dans ce contexte. C'est-à-dire que ce qui était particulièrement, disons, frappant et aussi dénoncé et en même temps difficile à faire comprendre, c'est que les projets d'extraction étaient lancés et promus par les gouvernements au nom justement du progrès social et du développement. C'est bon, la différence n'est pas si énorme, disons, au niveau du discours, parce que le développement est un horizon assez ancien.
Indépassable.
Indépassable, peut-être pas, mais en tout cas en Amérique latine, que ça soit depuis que le développement est devenu un horizon exporté dans les pays du Sud, tous les projets ou presque sont menés en son nom. Mais là, ce qui était particulièrement, on pourrait presque dire poignant, c'est le fait que ces gouvernements qui ont favorisé la mise en place de ces projets incarnaient vraiment un espoir. C'est-à-dire qu'il y avait des attentes sociales très fortes de redistribution, d'une amélioration de la qualité de vie, d'accès à une meilleure représentation des secteurs marginalisés et aussi d'arrêt de projets extractifs. Et donc, ces espoirs n'ont pas été complètement déçus, parce qu'il y a effectivement eu des améliorations à un certain nombre de plans, mais ce qui n'a pas changé, c'est la logique des zones de sacrifice, c'est-à-dire que, au nom du progrès, du développement, etc., des territoires entiers sont sacrifiés, transformés, pollués.
Détruits,
voilà. Et c'est peut-être justement ça qui est un point commun entre la critique de l'extractivisme en Amérique latine et dans les pays du Sud, et aujourd'hui de plus en plus aussi dans les pays occidentaux.
C'est-à-dire que ce que vous dites, Anna Bednik, c'est que pour les populations, ça a été particulièrement insupportable qu'il leur soit demandé de faire ce sacrifice, et là je mets des guillemets, pour le bien de tous. Un peu ce qu'on appelle ici l'intérêt général et qui fait qu'au nom de l'intérêt général, on devrait accepter de voir disparaître sa terre, son village, sa source, sa rivière, sa forêt, au nom d'un bien-être général qu'on peut tout à fait remettre en question.
Oui, finalement, la logique centre-périphérie peut effectivement être repliquée à l'infini, c'est-à-dire qu'elle vaut autant dans le cadre, on va dire, de la division internationale de travail entre les pays exportateurs de matières premières et les pays importateurs, mais elle va aussi entre tout simplement ces zones de sacrifice contraintes à se vider de toutes leurs substances, et d'un autre côté, les métropoles, disons, les centres de consommation. On pourrait dire que partout, les campagnes sont sommées à se sacrifier pour ce supposé intérêt général.
Mais vous allez même plus loin, Anna Bednik, puisque vous dites que ce fameux chemin qui mènerait toutes les richesses du sud vers le nord, ben, c'est pas si simple, parce que le Brésil, par exemple, a eu exactement la même attitude vis-à-vis des pays qui l'entouraient, c'est-à-dire qu'il s'est comporté comme une de ses économies centrales par rapport à sa périphérie. Et puis, non seulement ça, mais il y a aujourd'hui des pays dits du Sud qui renversent complètement la donne. Je pense là à la Chine.
Oui, effectivement, la Chine absorbe aujourd'hui plus de 32-33% de toutes les ressources naturelles extraites sur la planète. Donc, tout en extrayant énormément chez elle. Donc là, le schéma, il n'est plus aussi simple. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi avec les pays occidentaux, les grands extracteurs occidentaux, comme peuvent l'être le Canada, l'Australie, les États-Unis, qui mènent en matière de ressources naturelles une politique clairement néocolonialiste. Mais cela ne les empêche pas du tout d'extraire aussi de grandes quantités de ressources chez eux.
Mais oui, d'ailleurs, je me souviens que Alain Deneau, qui a signé il y a quelques années un livre Noir Canada, parlait du Canada comme d'une colonie. Il disait que c'était la même chose.
Oui, c'est vrai. Hein, c'est le Canada. On peut parler aussi de l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ils ont gardé ce modèle, ça c'est sûr. Et dans une certaine mesure aussi les États-Unis, même si ça ne veut pas dire que ce... Bon, les États-Unis, c'est un cas différent, évidemment, parce que c'est... qu'ils exportent majoritairement, évidemment, les produits manufacturés. Mais ce sont aussi de grands... C'est un grand exportateur agricole. Et les États-Unis sont devenus en 2013 le premier producteur mondial de pétrole et de gaz, hein, grâce notamment aux hydrocarbures de schiste.
Donc en fait, une situation qui s'est en quelque sorte étendue à toute la planète. On a l'impression que plus personne n'est à l'abri et que même si certains continents, vous n'avez pas encore évoqué l'Afrique, mais de fait, l'Afrique aujourd'hui est terriblement touchée aussi par cette... fièvre extractiviste, mais c'est comme si la ruée vers l'or était devenue une ruée vers tout, comme si il y avait une sorte de frénésie qui s'était emparée de l'industrie. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça, Anna Bednik? Vous avez parlé tout à l'heure de la raréfaction. Est-ce que c'est la seule raison, c'est-à-dire qu'on se battrait pour les dernières miettes?
Si on se bat autant pour les dernières miettes, c'est qu'on en a toujours besoin de plus. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement parce qu'il en reste peu, mais c'est parce qu'il en faut beaucoup plus et à chaque fois beaucoup plus.
À qui est-ce qu'il en faut beaucoup plus? Aux populations?
Il en faut beaucoup plus au système de production-consommation, puisque si on extrait aujourd'hui plus de 70 milliards de tonnes de ressources diverses, c'est pour alimenter les chaînes de production et de consommation de marchandises, produites toujours en quantité plus grande.
70 milliards de tonnes?
Oui.
Par an?
Par an. C'est-à-dire, ça c'est les chiffres du Sustainable Europe Research Institute et de ses partenaires qui alimentent une base de données qui est très intéressante, je vous conseille d'y jeter un œil, Global Material Flows, où on peut trouver toute une série de statistiques de flux physiques, aussi bien en termes d'extraction, de consommation, d'exportation, importation, etc. Et donc, oui, il s'agit de toutes sortes de matières, que ce soit les métaux, les minerais de construction, les hydrocarbures, la biomasse végétale, la biomasse animale.
Mais alors, ça serait l'augmentation de la population? Ça serait l'augmentation du niveau de vie, Anna Bednik? Je vous taquine, là.
Ouais. Alors, l'augmentation de la population n'y joue qu'un rôle. Il joue forcément un rôle, mais ce n'est pas le premier rôle. Ce n'est pas le premier facteur d'augmentation de ces volumes d'extraction, puisqu'on sait qu'au cours du XXe siècle, la population a quadruplé, alors que l'extraction de matière a été multipliée par 8. Donc, on voit là qu'il y a quand même une différence. Est-ce que c'est l'augmentation du niveau de vie? Oui, si on accepte la définition du dictionnaire, c'est-à-dire la quantité de produits et de services qu'on peut acheter avec le revenu dont on dispose. Donc dans ce cas-là, effectivement, on pourrait faire cette conclusion.
Visiblement, ce n'est pas celle que vous tirez, mais effectivement, on pense tout de suite au terme sacro-saint de croissance, qui est quand même brandi comme l'éternel Graal, après lequel il faut courir de plus en plus vite, de plus en plus fort. Si on arrêtait d'extraire demain toutes ces ressources dites naturelles, du sol, des entrailles, de l'eau, de l'air, tout s'effondrerait.
Oui, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est pour moi peut-être une des raisons de... Bon, j'ai commencé en parlant des mouvements de résistance, et pour moi c'est peut-être une des principales raisons de s'intéresser en particulier à ces mouvements-ci, et disons, alors même que ce qu'on voit dans leur lutte, c'est les mêmes processus et beaucoup de choses communes avec d'autres luttes locales en défense des territoires qui ne s'opposent pas spécialement à des projets d'extraction. Mais il se trouve effectivement que l'étape d'extraction est fondamentale, c'est pour le système économique actuel, on va dire. Puisque si on n'extrayait pas, on ne pourrait pas produire de plus en plus pour consommer de plus en plus
et jeter de plus en plus pour reproduire de plus en plus.
Exactement.
Bon, mais vous n'avez pas saisi la perche que je vous tendais, Anna Bednik, parce que je vous ai parlé de croissance, puisque tout de même, au-delà de cet horizon de la croissance, qu'on nous dépeint comme toujours aussi désirable, malgré les limites des ressources, commence à admettre, hein. Je trouve que c'est quand même passé dans la conscience générale, le fait qu'il y aurait des limites, en effet, aux ressources, qu'il y aurait des limites à ce qu'on peut extraire. Mais la bonne nouvelle, c'est l'innovation. C'est la dématérialisation. J'ai encore entendu, il y a assez peu de temps, un économiste expliquer que ce qui était ennuyeux avec les écologistes, c'est qu'ils sont trop craintifs et qu'ils ne font pas assez confiance à l'esprit d'innovation et que c'est ça qui va nous sortir et nous tirer d'affaire. Et peut-être, finalement, que toutes ces matières qu'on extrait aujourd'hui sont celles qui vont nous permettre demain de consommer moins et de réaliser ce fameux découplage, vous savez, la croissance qui continuerait à augmenter, parce que ça, c'est obligatoire, c'est nécessaire si on veut continuer à respirer. Mais en même temps, la croissance augmenterait en utilisant de moins en moins de matières, de matériaux. On serait dans une économie de plus en plus virtuelle. D'ailleurs, on est, de fait, dans une vie de plus en plus virtuelle, donc pourquoi pas?
C'est effectivement une idée largement véhiculée par ce qu'on pourrait appeler une forme de politique de l'oxymore, enfin en tout cas l'usage des oxymores de plus en plus fréquents, qui consiste à faire croire qu'il y a des objectifs inconciliables qui peuvent être conciliés, comme le développement durable par exemple, et effectivement la dématérialisation, bon, qui n'est pas un oxymore puisqu'il n'y a qu'un seul terme, mais c'est quand même la même idée.
La croissance verte ?
La croissance verte, oui, la croissance verte, parfaitement.
Il vous plaît celui-là ?
Il me plaît beaucoup. Oui, l'idée de la dématérialisation, c'est précisément ce que vous avez dit, c'est-à-dire que on nous fait croire que l'économie pourra continuer à croître et croîtra plus vite en consommant moins de ressources. C'est à la fois un objectif et un nouveau cadre comptable défendu par un certain nombre d'organisations, dont le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le PNUE, ou encore le CDE, la Commission européenne, la Banque mondiale. Bon, il y a tout un tas d'organisations qui rédigent des rapports sur ce sujet. Et donc, certaines nous disent même qu'il y aurait des raisons de garder l'espoir, enfin d'avoir de l'espoir, puisque effectivement, on a déjà fait beaucoup dans ce sens et que l'économie mondiale serait déjà en train de se dématérialiser. Bon, après, il faut voir ce qu'on entend par les termes. Si on prend le mot dématérialisation au pied de la lettre, au sens littéral, eh bien, on devrait constater une désincarnation, un détachement de la matière, le fait qu'effectivement, on produit avec de l'air, non ? Enfin, pas l'air encore, on pourrait peut-être en douter, mais du vide. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. Si on pense que l'économie se dématérialise parce qu'on envoie de plus en plus d'emails et qu'on communique via des ondes, eh bien, c'est absolument, ça n'a absolument aucun sens parce que tout ce monde virtuel est soutenu par des infrastructures bien physiques, produites à partir de matières premières bien réelles aussi. Et que ce n'est pas parce qu'un email voyage sur les ondes, qu'il le fait par la force du Saint-Esprit. Donc, la dématérialisation que ces institutions défendent, et quand ils disent qu'elles se réalisent, ce qu'ils entendent par là, c'est qu'il y a effectivement une meilleure utilisation des ressources par unité de production. C'est-à-dire que pour produire la même chose, un exemplaire, on utilise moins de ressources. Ça ne veut absolument pas dire que la consommation globale des ressources diminue.
Mais oui, parce que ça, c'est pas nouveau, Anna Bednik. Déjà, pour produire une tonne de fer, on a utilisé de moins en moins de charbon au cours des siècles.
Oui, tout à fait. C'est une stratégie très ancienne de réduction des coûts de production. Des historiens montrent qu'elle est même antérieure au capitalisme et qu'elle a été effectivement au centre des stratégies du capitalisme, des stratégies des producteurs dans le cadre du capitalisme industriel.
Et ça n'a jamais signifié qu'on utilisait moins de charbon de manière absolue, en absolu. C'est-à-dire on utilisait relativement moins de matière pour fabriquer quelque chose, mais on utilisait toujours autant de charbon et même plus pour produire beaucoup plus de machines à vapeur, par exemple, si on reste dans le charbon.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, le paradoxe de Jevons. Effectivement, la machine à vapeur permettant d'utiliser moins de charbon pour produire plus, on a utilisé plus de machines à vapeur. C'est tout à fait ça, et c'est ce qu'on peut aussi constater au niveau global de, si on regarde la consommation des ressources aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus de chaque matière en termes absolus pour produire de plus en plus, tout simplement.
Alors, autre idée reçue que vous battez en brèche, l'idée de la succession. Le nucléaire aurait succédé au pétrole, qui aurait succédé au charbon, et donc la dématérialisation succéderait à tout ça.
Oui, on pourrait même dire que c'est l'idée de la transition qu'il faut questionner.
La transition énergétique ?
La transition énergétique. Bon, c'est... Comme le montrent par exemple Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, hein, deux historiens, il n'y a jamais eu de transition énergétique. C'est-à-dire que chaque nouveau vecteur d'énergie s'est ajouté au précédent. Le pétrole, par exemple, n'a pas du tout remplacé le charbon. Il s'y est ajouté. L'économie était pétrolisée, mais en même temps, on n'a jamais extrait autant de charbon qu'aujourd'hui. Même si sa part relative dans le mix énergétique est beaucoup plus faible qu'avant.
Mais alors, qu'est-ce qui explique finalement cet optimisme des institutions ? Vous avez cité, Anna Bednik, le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Vous avez cité la Commission européenne, l'OCDE. Et on peut remarquer là que vous avez cité des organismes publics. Alors est-ce que ça serait que dans les milieux publics et politiques, on serait resté dans une sorte de vision très belle et noble de ce qui se passe et qu'on ignorerait les turpitudes de l'économie réelle ? Là aussi, c'est plus compliqué puisque vous dites que, en fait, pendant que la Commission européenne annonce avec beaucoup d'enthousiasme la dématérialisation à venir, elle est en même temps en train de publier l'initiative matière première qui, justement, vise à assurer la sécurité en approvisionnement de matières premières pour l'ensemble de la communauté européenne. Et toutes ces institutions publiques et tous ces gouvernements qui sont tellement prompts à nous rassurer, en fait, sont également partie prenante et pas seulement complice de cet extractivisme d'aujourd'hui. Ils y participent largement.
Oui, je pense qu'il s'agit avant tout d'un discours anxiolytique, c'est-à-dire continuer à faire comme vous avez toujours fait, on s'occupe de tout. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, l'initiative matière première, qui est un document stratégique de la Commission européenne qui date de 2008 et qui définit la stratégie de l'Union en matière d'approvisionnement en ressources stratégiques, eh bien, ce document pose trois piliers, hein, pour la politique de l'Union européenne en matière de matières premières. Le troisième pilier est consacré au recyclage. Donc là, on est dans de la dématérialisation d'une certaine façon, même si on pourrait revenir. Le recyclage, par exemple, nécessite aussi de l'énergie, donc finalement d'extraire. Donc ça, c'est le troisième pilier. Le deuxième pilier, c'est le développement du potentiel local de l'Union européenne, c'est-à-dire, par exemple, tous les projets miniers qui sont aujourd'hui relancés en France, ailleurs en Europe. Et donc, le premier pilier, c'est les très classiques, c'est la diplomatie des matières premières, c'est-à-dire, là, pour le coup, le document avoue noir sur blanc des intentions tout à fait néocolonialistes, qui donc enjoint les pays européens à assurer, la Commission européenne, l'Union européenne, à assurer un accès sûr à des gisements dans des pays tiers, des pays hors l'Union européenne.
Et là, on parle donc d'intervention directe des États.
C'est une politique interétatique, d'une organisation internationale qui est l'Union européenne. Donc oui, c'est clairement une politique, une décision stratégique, une politique assumée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas que des acteurs privés dans le secteur extractif. Alors évidemment, il y a juste une petite parenthèse. Parmi les plus grandes entreprises du monde, les entreprises privées, la tête du tableau est occupée par les compagnies pétrolières. Donc ça, il faut le savoir. Et en général, les secteurs liés à l'extraction concentrent un très grand nombre de très, très grandes entreprises, hein, qu'il s'agisse de l'extraction proprement parlée, de la première transformation, des services associés. Les services, par exemple, aux entreprises pétrolières, qui est un très gros secteur, le négoce, la finance, etc. Donc là, c'est toujours dans le privé. Il s'agit d'intérêts économiques très importants. Et en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que des entreprises privées dans le secteur extractif. En ce qui concerne, par exemple, le pétrole et le gaz, ces entreprises qu'on appelle les NOC, pour National Oil Company, contrôle même entre 58 et 75% de la production mondiale et jusqu'à 90% des réserves. Donc c'est quelque chose de très important. Généralement, on classe les entreprises privées en fonction des critères financiers. Les entreprises pétrolières en général peuvent être classées aussi selon des critères relatifs à leur production, à leurs réserves, à leur capacité de raffinage. Eh bien, dans un classement de ce type, les entreprises publiques pétrolières occupent la tête du classement. Donc, il s'agit par exemple la première entreprise pétrolière du monde et publique, c'est Saudi Aramco, par exemple, Saudi Aramco. Et elle est suivie aussi de toute une série d'autres entreprises qui sont très bien classées.
À un moment, Adna Bendik, vous avez dit que les mouvements de résistance avaient affaire à bien plus fort qu'eux. Et c'est vrai que quand on vous écoute, on a le sentiment d'être face à quelque chose d'absolument gigantesque, à la fois par l'échelle de ce qui est touché, atteint. L'extractivisme vraiment ne laisse plus un lieu de la planète à l'abri, véritablement. On a affaire à des économies extraordinairement puissantes, on a affaire à des États qui sont organisés et partie prenante de cette économie mondialisée. Je crois que une des choses qui m'ont touchée dans votre livre, c'est la façon que vous avez de mettre en regard justement cette puissance démesurée, mais qui est surtout une puissance de destruction, avec ce que les résistants en face ont à mettre dans la balance. Vous dites que pour eux, il ne peut pas s'agir de chiffres.
Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs, je pense, le principal enjeu de tous les mouvements qui s'opposent à ce type de projet. Hein. Et d'ailleurs, de façon plus générale, qui s'opposent à tous les projets qui visent à enrôler les territoires au service d'un système de production-consommation des marchandises. C'est-à-dire qu'il s'agit d'élever le débat à la hauteur de ses véritables enjeux. Il ne s'agit effectivement pas de comptabilité, hein. C'est pour ça que il ne faut pas se perdre dans un débat qui consiste soit à essayer de contrer les arguments rassurants qui disent que si là les risques ils seront plus ou moins maîtrisés, bon, il peut y avoir des exceptions, mais quand même, on arrive à faire les choses de façon plus propre qu'avant, etc. Il ne faut pas non plus se contenter d'essayer de prouver que les promesses que font les entreprises extractives et la puissance publique qui le soutient ne seront pas tenues ou qu'elles sont mensongères, que non, ça va créer tant d'emplois et pas tant, et ça va rajouter tant de points de croissance et pas autant que ce qu'on promet, parce que finalement, c'est pas ça qui est important. La question, c'est plutôt de savoir s'il existe vraiment des conditions qui rendraient acceptable le sacrifice de ce qui est vital pour les personnes qui vivent à un endroit donné et qui sont attachées à cet endroit et finalement ne peuvent pas imaginer que cet endroit puisse disparaître tout simplement.
Ce que vous dites, c'est que la catastrophe n'est pas à venir, elle est déjà là et qu'il ne faut pas attendre que toutes les réserves aient été épuisées et que les 3, 4, voire 5 degrés de réchauffement climatique aient été dépassés pour s'inquiéter ou réagir. La catastrophe, c'est aujourd'hui. Et que ces luttes qu'on a très longtemps disqualifiées en les traitant de nimbyistes, not in my backyard, sont sans doute les luttes les plus fructueuses, les plus fécondes, à la fois en termes de ce qu'elles créent pour les personnes qui se mettent en mouvement et en ce qu'elles révèlent que le combat, il est véritablement un combat pour la vie, pour que la vie continue.
Oui, ce qui se passe, c'est que c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que l'avancée de, aussi bien des frontières extractives que de toute forme de frontières qui marchande, on peut dire de marchandisation, l'extension des zones de sacrifice dédiées à l'extraction de matières premières, mais aussi des zones consacrées à la transformation de ces matières, les zones de, industrielles où on fabrique des produits à partir de ces matières, les zones commerciales où ils sont vendus, les zones résidentielles, etc., continuent à s'étendre partout où ils peuvent, en assignant des fonctions au lieu de vie. Et c'est-à-dire qu'entre ces zones, il y a de moins en moins d'espace, on va dire, libre de cette logique. Il y a de moins en moins d'espace pour être, pour reprendre les termes d'un militant afro-colombien. Et donc, ceux qui se mobilisent pour défendre ces espaces, effectivement, mènent un combat qui n'est pas seulement... Disons que oui, au départ, ce qui les mobilise, c'est la défense de leur propre lieu de vie. Mais finalement, sans l'existence de ces espaces encore préservés, on peut difficilement imaginer que d'autres imaginaires puissent émerger, se développer et s'étendre.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Chenepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Cédric Chatelu, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.